Ratafia par Alain Couder, première cassette, deuxième piste, page 43. Lorsque Ratafia se réveilla, la lune était déjà haute. Sans plus attendre, il prit sa musette qui lui avait servi d'oreiller et se laissa glisser prudemment sur la plage. La neige et la glace l'avaient recouverte. Il progressa par bonds successifs vers le navire silencieux, toujours sans savoir comment il allait monter à bord. Tout contre le bateau, la glace était rompue. La houle entrechoquait de gros blocs. Ratafia s'approcha pour observer l'immense navire qui se découpait sous la lune. Il n'y avait aucune passerelle et il ne fallait pas songer à grimper sur le pont d'un bond. C'était beaucoup trop haut pour lui, sans parler de sa musette et de sa pelisse qui entravaient sa liberté de mouvement. Il contourna le navire, malgré le danger qu'il y eut à s'exposer aux rayons de la lune et d'être aperçu par un des occupants du bateau. À l'avant, il trouva la chaîne de l'ancre. Il l'escalada sans hésiter. Une large plaque de métal barra sa route à mi-hauteur. Voilà l'explication des paroles de Zag. Les humains ont encore trouvé une parade au désir de voyage des rats. Impossible de passer par ce chemin. Je dois trouver un autre moyen. Il redescendit. Avec une joie immense, il aperçut, tombant sur le sol de glace, une corde, celle-là même que les marins avaient utilisée le matin pour se rendre à terre. Sans hésiter, Ratafia grimpa aussi vite qu'il le put, le long du chanvre graisseux, et atterrit en douceur sur le pont. Son cœur battait très fort. Il avait réussi. Mais il savait qu'il n'était pas encore au bout de ses peines. Il devait maintenant trouver une cachette pour tout le temps que durerait une traversée qu'il savait fort longue. Sur le pont, 1000 cachettes semblaient possibles. Mais Ratafia pensa qu'en pleine mer, les vagues pouvaient l'atteindre, sans parler de la présence permanente des humains. Il était donc nécessaire de trouver un lieu sûr dans le ventre même du navire. Mieux. Je dois apprendre à bien connaître le bateau de façon à repérer plusieurs cachettes dans lesquelles je pourrais me réfugier à tout moment et en cas de danger, où que je sois, se dit-il. Il fit le tour du navire, grimpé sur le bastingage et repéra deux ou trois endroits protégés avant de chercher une issue par laquelle il pourrait pénétrer dans le bâtiment. Tout semblait fermé à cause du froid intense. Il put cependant grignoter le cuir d'un bas de porte et se glisser dans le ventre chaud du bateau. Une forte odeur de sueur et de crasse lui monta au nez. Il attendit un instant que ses yeux s'habituent à l'obscurité qui régnait là et découvrit que des hommes dormaient étendus, à même le sol, enroulés dans des couvertures ou des peaux malodorantes. Ratafia se faufila au milieu d'eux et d'un incroyable bric-à-brac de cordage pour gagner les profondeurs du bâtiment. Les portes étaient soit inexistantes, soit mal fermées, ce qui facilita grandement sa progression. Il trouva enfin, au plus profond d'une cale, deux poutres mal jointes qui lui apparurent un abri plus que suffisant. De là, il pourrait surveiller les allées et venues des humains dans cette partie du navire et s'échapper au besoin vers d'autres lieux sûrs par les poutres qui soutenaient le pont au-dessus de sa tête. Son refuge surplombait un petit troupeau de moutons. « Il ne me reste plus maintenant qu'à attendre. Pour ma nourriture, je verrai demain comment me la procurer. Elle ne doit pas manquer ici, avec les humains et les animaux qui s'y trouvent. Ce n'est pas la part que je prélèverai qui se verra. » Et Ratafia s'endormit. En pensant au bon morceau de volaille qu'il avait pris soin de conserver dans sa musette et qui lui ferait encore deux succulents repas. Chapitre 4. Pour la première fois depuis longtemps, Ratafia avait faim. Au-dessous de lui, les moutons ruminaient en bêlant doucement. « Bé,
Bé, bé.
Un peu d'air frais avait balayé la puanteur de son fond de cale. Coincé dans les glaces, le bateau était resté plusieurs jours immobile. Ratafia en avait profité pour explorer le moindre recoin. La cambuse, c'est-à-dire l'endroit où l'on garde les provisions du navire, n'avait pas échappé à sa visite. Il avait inventorié à sa façon toute la nourriture dont il pourrait disposer pour la traversée, qu'il supposait fort longue. Il avait percé quelques sacs de pois secs, se créant des réserves dans ses différentes cachettes. Il avait également dérobé des pommes dans un tonneau, et après bien des péripéties, avait même extrait un gros morceau de viande de porc salé d'un autre baril laissé ouvert par un humain. La nuit où le navire avait commencé à bouger, légèrement d'abord, Ratafia avait regagné prudemment son abri au-dessus des moutons. Bien lui en prit. Ses premiers jours de navigation furent terribles. Il avait horriblement souffert d'un mal de mer tenace qu'il avait cloué dans son trou, l'empêchant de se nourrir et l'affaiblissant. Le peu qu'il avait réussi à ingurgiter s'était obstinément refusé à rester dans son estomac. Heureusement, il s'était peu à peu habitué au lourd balancement du navire et à ses sinistres craquements. Passant habilement de poutre en poutre, Ratafia gagna l'air libre. Le temps s'était beaucoup amélioré depuis la dernière fois où il s'était hasardé sur le pont couvert de glace. Un soleil resplendissant l'accueillit et l'aveugla un instant. Si je dois m'enfuir un jour devant un danger, il faudra que je fasse attention à ne pas me laisser éblouir par la lumière de l'extérieur, pensa-t-il. Le ciel et la mer avaient la même teinte bleue. Une douce brise gonflait les voiles. Torse nu, des humains vaquaient sans se presser aux tâches d'entretien du bateau. Ratafia songea un instant à se mettre dans un coin pour se chauffer au soleil. Mais il aurait pu se retrouver sans défense à la merci d'un marin. Il préféra réintégrer rapidement et discrètement les cales où il entreprit de visiter ses caches de nourriture. Ses provisions avaient disparu de la première. Des crottes caractéristiques indiquaient que d'autres rats avaient embarqué. Cela le réjouit et l'irrita à la fois. Si beaucoup de semblables se manifestaient, les humains ne manqueraient pas de déclencher une terrible chasse contre eux, de laquelle Ratafia aurait tout à redouter. Mais il pensa aussi qu'à plusieurs, on est mieux à même de se défendre contre les ennemis. Se guidant avec son odorat, il se glissa vers un lieu plus obscur encore que sa propre cachette. Là, il distingua trois énormes rats qui semblaient tenir conciliabule. Il s'approcha au plus près pour saisir leur conversation.
« Approche-toi donc, l'inconnu !» dit soudain une grosse voix derrière lui.
Ratafia bondit de frayeur. Il faillit tomber de la poutre sur laquelle il se tenait. Toute solution de fuite était exclue. Un quatrième rat, encore plus effrayant que les trois autres, lui barrait la retraite.
« Ah ! Te voilà, enfin ! Nous t'attendions. Nous pensions que tu finirais bien par te manifester. » À moins que les humains ne t'aient transformé en ragoût avant. « Qui es-tu ? » demanda celui qui semblait le chef de ce clan bien singulier.
« Ma mère m'a nommé Ratafia, » répondit-il. « Je viens de loin et j'ai dû marcher de nombreux jours depuis ma campagne pour trouver la mer et m'embarquer sur ce navire. »
« N'es-tu point celui qui a réussi à échapper aux incisives de Zag, la jeunette ?»«
Si fait, mais comment l'as-tu appris ?»
Les nouvelles vont très vite dans les ports. Toutes nos félicitations, mon garçon. Tu as été malin. Tu es le seul, à ma connaissance, à pouvoir te vanter d'être sorti vivant de cette auberge. Zag est un ennemi cruel de notre race. Elle est connue de nous qui naviguons. Les rats de ta campagne, tes pareils, finissent souvent leurs tristes aventures avant même de les commencer dans cette auberge. Que viens-tu faire sur ce bâtiment ?
Zag m'a dit qu'il faisait voile vers le monde nouveau, où les rivières sont de lait et de miel.
La vieille légende est toujours aussi tenace dans les campagnes, dit un des rats. Ouais, Encore un des nôtres qui va au-devant de vilaines illusions, reprit le chef. Ratafia, ton aïeul t'a raconté des histoires tout juste bonnes pour les enfants. Un tel pays n'existe pas. Et crois-moi, mes compagnons et moi-même sommes bien placés pour le savoir. Personnellement, j'ai navigué sur la plupart des bateaux qui font la grande traversée. Il n'y a là-bas que chaleur, misère, vermine, moustiques et sauvages. Ceux des nôtres qui ont débarqué sont morts de maladie, de faim. D'autres ont été capturés par les humains qui y vivent et s'en nourrissent, parce que, eux aussi, n'ont souvent rien à manger. Les récoltes sont mauvaises. Les plantes des pays que tu connais ne poussent pas sur ces terres-là. Elles grandissent très vite, puis s'étiolent et meurent sans donner de fruits. Pourquoi crois-tu que nous passons notre vie sur les bateaux plutôt qu'à terre ?
Je ne sais pas, osa Ratafia.
Parce que nous n'avons pas encore trouvé de lieu digne de nous. Ici, en attendant de découvrir l'Eldorado,
E-L-D-O-R-A-D-O,
s'il existe, nous avons tous dont un rat peut rêver. Mais sais-tu, ignorant, ce que c'est que l'Eldorado ?
Non.
Il s'agit d'un pays dont rêvent les hommes. Il serait, selon eux, riche d'un métal qu'ils appellent l'or.
Eldorado, en espagnol, ça veut dire le pays de l'or.
Les hommes sur leurs vaisseaux de haute mer cherchent ce pays fabuleux pour eux, alors qu'ils ne sont pas capables de cultiver de quoi se nourrir sur les îles.
Le chef du clan se tut un instant. Ratafia brisa le silence. Comment se fait-il que lors de mes explorations dans le navire, je ne vous ai pas découvert ?
Tu ne connais pas ce navire aussi bien que nous qui naviguons depuis plusieurs années. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais tu me plais. Mes compères et moi, nous avons apprécié la disposition de tes cachettes et surtout la nourriture que tu y avais entreposée. Tu es très astucieux. Aussi, je vais te proposer un marché.
Nous n'aimons pas les nouveaux venus.
Pourtant, comme tu es malin, je t'engage à mon service. Tu seras chargé de porter de la nourriture jusqu'ici pour mes trois amis et moi-même. En échange de cela, je te donne l'autorisation de rester sur ce navire. Quand nous gagnerons une terre, je te redonnerai ta liberté, à moins que je n'en décide autrement d'ici là.
Et si je refuse de servir, dit Ratafia, si je préfère garder ma liberté.
Oh ! Tu peux sauter à la mer dès maintenant, nous gagnerons du temps, s'esclaffa le gros rat.
Nous te rendrons la vie impossible d'abord, ricana le plus petit. Nous rabattrons les humains sur ta cachette, et s'ils n'arrivent pas à te déloger, nous te tuerons nous-mêmes, quand ce jeu ne nous amusera plus.
Maintenant, tu sais où se situe ton intérêt. Il va justement être l'heure de notre repas. Ne te contente pas de nous ramener des pois. La viande et les pommes sont meilleures. Presse-toi, conclut le chef.
Ratafia décida, plein de rage et de chagrin, d'obéir. Pour l'instant.
Et n'oublie pas de nous porter aussi de l'eau. La viande salée donne soif,
entendit-il dans son dos pendant qu'il prenait le chemin de la Cambuse. Chapitre 5. Le bateau résonnait sans arrêt du trottinement de Ratafia qui tentait de satisfaire les désirs les plus fous de ses maîtres. Au cours de ses longues semaines de traversée, il avait maigri. Son travail au service des quatre rats l'avait épuisé. Il le battait quand il n'apportait pas assez vite le manger réclamé. Lui ne connaissait que privation, coups et brimades. Mais il attendait patiemment son heure. Ses vauriens seraient punis un jour. Rasibus, R-A-S-I-B-U-S, était le plus petit et le plus méchant. Il aimait envoyer Ratafia dans les lieux exposés du navire dans l'espoir que les humains le repèrent et le prennent en chasse. Radouble, R-A-D-O-U-B-L-E, était un très gros rat. À lui seul, il engurgitait autant de nourriture que tous les autres ensemble. Pour satisfaire son appétit, Ratafia devait faire fréquemment deux ou trois voyages depuis la Cambuse. Aller quérir de quoi manger devenait chaque jour plus périlleux. Les pommes étaient finies depuis longtemps et les tonneaux de viande salée largement entamés. Il lui fallait, plusieurs fois par jour, trouver une astuce pour descendre dans des barils quotidiennement plus profonds et surtout en sortir très vite avant que le coq, le cuisinier du bord, ne se rende compte de sa présence. Enfin, la grande voracité de Radouble allait de pair avec une soif insatiable que Ratafia avait souvent beaucoup de peine à étancher. Maintenant qu'il avait un engagé, un serviteur, à son service, le gros rat ne voyait pas pourquoi il se serait déplacé jusqu'à la réserve d'eau, alors qu'il lui était si simple de se faire servir. Raptus, R-A-P-T-U-S, était le plus étrange de ces rats. Toujours silencieux, il mangeait peu ou pas, disparaissait quelques jours et revenait de ses fugues l'air hagard. Ratafia le craignait beaucoup, bien qu'il fût le seul à n'avoir jamais levé la patte sur lui. Ralingue, R-A-T-L-I-N-G-U-E, était le chef de cette bande de pirates. Chacun reconnaissait en lui l'art de la navigation et de la météorologie. Il savait exactement, depuis son fond de cale, le temps qui régnait au dehors, le temps qu'il ferait demain et le nombre de jours de mer qui restaient avant de toucher terre. À côté de cela, c'était un paresseux qui ne bougeait pas de la journée et qui ne savait que raconter des histoires, un art qu'il pratiquait fort bien d'ailleurs. Une nuit, Ratafia fut éveillé par un cri inconnu.
Tia, 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 tia.
On dirait un oiseau, pensa-t-il. Tout de suite, le cœur plein d'un espoir fou, il monta prudemment sur le pont. La pleine lune l'éclairait. La mer était assez grosse, mais le ciel dégagé. Des oiseaux tournaient effectivement au-dessus du navire. À l'horizon, à l'opposé du jour qui se montrait, il aperçut un amas de nuages qui indiquait la terre, comme l'avait souvent expliqué Ralingue dans ses récits. Il descendit aussitôt dans sa cachette, ramassa ses affaires, les enfouit dans sa musette avec quelques poids en guise de provisions, puis se hissa à bord de l'un des canots qui était arrimé sur le pont. Depuis longtemps, il avait espéré ce départ. Il avait en effet eu tout le temps nécessaire de le préparer dans les moindres détails. Le canot choisi était le plus près du bord, donc celui que les humains utiliseraient forcément en premier pour se rendre à terre chercher l'eau qui commençait à faire défaut. Il s'était aménagé une cachette à l'avant et l'avait masqué à l'aide de cordages et d'une vieille planche vermoulue. À peine installé, il entendit la pluie battre le pont du navire. Voilà qui arrange encore mes affaires. Ces maudits faux frères ne retrouveront plus ma trace. Je suis bien tranquille maintenant. Et il s'endormit. Un choc brutal éveilla Ratafia. Le canot venait d'être mis à la mer. L'eau suintait entre les planches. Elle tempéra un peu la chaleur torride qui régnait dans son abri. Il entendit des humains monter à bord, le claquement des rames sur l'eau, et un moment plus tard, le crissement de l'étrave sur le sable. Ratafia attendit un peu avant de sortir de sa nouvelle cachette où il suffoquait. Une grande plage de sable noir le séparait de la protection d'un rideau d'arbres. Derrière, les collines escarpées étaient entièrement couvertes de forêts aux verts intenses. Nulle culture n'indiquait la présence des hommes. Au loin, sur un fond de ciel bleu à peine voilé de quelques nuages, se dessinaient trois pitons, trois montagnes. Le canot avait atterri dans l'embouchure d'une rivière. L'équipage remplissait déjà des tonneaux d'eau, s'aspergeant et riant bruyamment. Au pied de la chaloupe, deux humains, appuyés sur de gros bâtons de forme curieuse, montaient la garde. Ratafia savait qu'il lui faudrait être rapide pour gagner l'abri des arbres afin d'échapper aux bâtons et aux pierres des humains. Il arrima sa musette sur son dos après avoir pris soin d'y mettre ses sabots, respira très fort et s'élança hors du canot. Le sable mou ne favorisait pas sa fuite. Il coupa au plus court vers les arbres, passa entre les jambes d'un marin. Une grande exclamation fusa derrière lui. Un bruit assourdissant éclata. Pong ! Au même instant, il entendit un sifflement terrible, comme celui d'un gros frelon. Le sable jaillit devant lui. Des oiseaux multicolores s'envolèrent à grands cris au loin. D'un crochet, Ratafia évita le trou ouvert par la chute du frelon. Un autre claquement, suivi d'un autre sifflement, l'assourdirent. Instantanément, un trou jaillit à côté de lui. Ratafia n'avait pas le temps d'avoir peur. Il courait de toute la force de ses petites pattes, s'enfonçant dans le sable sec de la plage. Derrière lui, il entendait la clameur des humains, perçut leur course qui se rapprochait. Il gagna une zone herbeuse qu'il franchit en quelques bonds, et de là, le sous-bois protecteur. Sans jamais se retourner ni ralentir, il filait au milieu d'arbres aux racines hautes. Enfin, il s'engouffra à toute vitesse dans le premier trou qui s'offrit à lui. Au loin, les voix des humains lui parvinrent. Leur rire qui zébrait l'air indiquait qu'ils ne poursuivaient pas leur chasse. Terré dans son refuge, Ratafia haletait à bout de souffle. Ici, le récit de mon ancêtre a subi l'outrage du temps. L'encre utilisée devait être de mauvaise qualité, car des pages sont redevenues blanches. Malgré mes efforts, je n'ai pu déchiffrer que quelques mots épars. Les îles, la rivière, oiseaux, nourriture, soleil, cognet, C-O-G-N-T, je ne sais pas ce que ça veut dire. Plus loin, une phrase, d'une autre encre, et visiblement d'une autre écriture à la fin de ce chapitre, en bas de page comme une note. L'humain poisson, aux larges moustaches et aux petites oreilles, aperçu près du rocher, devait être un phoque ou un lamantin, L-A-M-A-N-T-I-N. Chapitre 6. Contrairement à ce que Ratafia avait cru en débarquant, il y avait bien des humains sur l'île, même s'il n'avait trouvé que peu de lieux habités et aucun construit de la manière qu'il avait connu chez ses parents. Ces hommes n'étaient pas tout à fait comme ceux de la ferme ou ceux du bateau. Ils vivaient nus, se recouvraient fréquemment le corps d'un liquide rouge et peignaient parfois leur visage au front aplati. Devine, ce sont des sauvages, des Caraïbes. Ils demeuraient sous des abris de bois. Ils couchaient dans de grandes toiles qu'ils accrochaient aux piquets qui soutenaient un toit de feuillage. La nuit, le vent les balançait mollement. Les hommes et les femmes semblaient vivre séparément. Il avait remarqué que les hommes allaient le plus souvent à la pêche ou à la chasse. Ils se déplaçaient dans de longs canots, tantôt à la voile, tantôt à la rame, mais toujours avec une très grande habileté. Ils pêchaient à l'aide de casiers de bois, dans lesquels les poissons pouvaient entrer mais pas ressortir. Ils utilisaient aussi des filets et des lignes montées avec des hameçons de coquillages ou d'os. Ratafia avait aussi assisté à une pêche étrange. Deux canots avaient versé dans la mer un liquide qui avait fait remonter à la surface tous les poissons, le ventre en l'air. Les pêcheurs n'avaient eu qu'à se pencher pour ramasser les plus gros. Les hommes usaient d'arcs et de massues pour chasser les lézards, les iguanes, les iguanes ce sont des reptiles, des espèces de gros lézards si tu veux, et les oiseaux en fort grand nombre. Les femmes et les enfants, quant à eux, cueillaient les fruits et les plantes de la forêt ou cultivaient dans les clairières de petits champs de racines. Ils les déterraient, puis les préparaient en les râpant, en les pressant fortement pour en extraire le jus et en les cuisant sur de grandes plaques. Prudent, Ratafia n'avait jamais tenté de manger une autre nourriture que celle des humains. Il s'était souvent régalé de la farine cuite qu'il tirait des racines et entreposait dans de gros pots de terre. D'autres racines lui rappelait au goût les châtaignes de son enfance. Lorsqu'il s'approchait des habitations des humains, il prenait garde de ne pas se laisser surprendre par les chiens. Ils étaient sans poils et surtout n'aboyaient jamais, surprenant ainsi plus facilement leur proie. Ratafia lui-même avait changé. Ses premiers jours sur l'île avaient été très durs. Il avait encore maigri, bien que n'étant déjà pas très gras, après les traitements que lui avaient fait subir les autres rats. Il souffrait toujours de la soif. Heureusement, l'eau coulait en abondance partout, et dans les endroits les plus secs, il avait appris à identifier certaines plantes qui retenaient le précieux liquide entre leurs feuilles. Son poil était tombé par touffes, lui donnant l'aspect d'un vieux rat négligé, lui qui pourtant se lavait fréquemment. Dans les zones humides, les moustiques l'empêchaient de dormir la nuit. Peu à peu, il apprit à reconnaître les lieux plus sains, plus secs ou mieux ventilés. Au cours de ces mois d'exploration, Il n'avait rencontré aucun rat comme lui. En dehors des lézards, des iguanes et des perroquets, il avait croisé des manicous, M-A-N-I-C-O-U-S, des animaux discrets dont les femelles portaient leurs petits dans une poche ventrale ou sur leur dos. Ratafia fut donc très surpris le jour où il rencontra sur son chemin un cochon de belle taille. Il se cacha entre les racines d'un gros arbre. La bête ouvrait la voie à une petite famille. Le troupeau passé, il attendait avant de reprendre sa route quand il entendit des aboiements. Le cœur battant de peur, mais trop curieux pour bouger, il vit passer devant lui deux chiens, comme il en avait vu à la ferme, et trois humains habillés ainsi que les marins du bateau à bord duquel il était arrivé. Les hommes portaient des bâtons bruyants, pareils à ceux dont il avait essuyé la colère lorsqu'il s'était échappé du canot. Sans prendre le temps de réfléchir, Ratafia suivit le groupe. Le drame se déroula dans une clairière. La famille cochon, trop occupée à déterrer des racines, ne sentit pas venir les chasseurs silencieux qui avaient muselé leurs chiens. Ils se rapprochèrent prudemment, mirent leurs bâtons à l'épaule. Ratafia les vit fumer avant d'entendre le bruit assourdissant des détonations. Pan, pan, pan ! Trois cochons s'écroulèrent instantanément, tandis que les autres s'éparpillèrent en prenant la fuite. Les humains sortirent de leur cachette, joyeux, et ramassèrent les animaux morts qu'ils chargèrent sur leurs épaules. Ratafia les suivit encore à distance raisonnable, se méfiant de l'odorat des chiens, mais alléché par la viande de porc qu'il n'avait pas goûtée depuis longtemps. Les marins arrivèrent sur une plage à l'embouchure d'une rivière. Près du bord, toute voile pliée, se tenait une grande barque bercée par la houle. Un humain accueillit le groupe avec de grands signes de contentement. À l'exemple des indigènes de l'île, il avait déjà construit une hutte pour abriter la troupe et une autre au toit plat, plus petite, sous laquelle était entassé force bois vert. Sans prendre le temps de se reposer, les chasseurs, après avoir attaché leurs chiens, dépouillèrent prestement le gibier abattu. Ils découpèrent la chair en fines lamelles qu'ils étendirent sur le lit de branchage que Ratafia avait pris pour une petite hutte et enflammèrent le bois entreposé au-dessous. Une épaisse fumée monta vers le ciel, léchant au passage la viande de porc. Ce sont des boucaniers, B-O-U-C-A-N-I-E-R-S, pensa Ratafia, se souvenant de l'un des récits de Ralingue. Ils conservent ainsi la viande pour l'échanger avec des bateaux qui passent au large ou pour aller la vendre dans le port le plus proche. La nuit, comme de coutume sous ces latitudes, tomba brusquement. Elle était sans lune. Ratafia s'approcha avec précaution du campement. Il passa au large des chiens attachés qui grognèrent en percevant son odeur, mais se rendormirent. Tout en veillant à ce que le feu ne produise pas de flammes sous la viande, un humain montait la garde en aspirant la fumée d'une barre d'herbe sèche roulée. Ratafia n'eut aucune peine à se hisser sur la construction fragile qui supportait la viande qui boucanait. La fumée lui donnait envie de tousser, mais le cachait à la vue du gardien. Il s'empara d'un gros morceau de porc, avalant goulûment quelques bouchées qui lui éviteraient de s'enfuir le ventre creux au cas où il serait délogé. Il agissait toujours ainsi lorsqu'il volait de la nourriture aux humains. Malgré son courage, la fumée et la chaleur ne tardèrent pas à le chasser. La gueule pleine d'un second morceau, il descendit à l'opposé du veilleur et, à grands bonds, s'enfonça dans la forêt protectrice. Il se trouvait déjà loin quand un chien jappa derrière lui, le nez au vent. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 71, Alain Coudert, Ratafia.